BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va parler de tas de choses, on va parler du bonheur avec l'ambassadrice du bonheur, Malène Riddal. Vous savez, celle qui avait écrit Le bonheur à la danoise. Elle publie un livre très amusant sur pourquoi on ne répond plus aux mails et qu'est-ce que ça veut dire derrière. Vous allez voir, restez avec nous, ça sera à partir de 12h15. Après, je recevrai Nicolas Sédoux, le patron de la Gaumont. On parlera des Césars, et c'est vendredi. Comme vous le savez, il y a toute une polémique autour de César. Il y a Cannes, mais il y a aussi le bon bilan du cinéma français, puis la réforme de l'audiovisuel qui pourrait impacter le cinéma. Et puis dans un instant, on va parler, alors c'est moins drôle et en même temps c'est tout aussi drôle, des énarques. Frédéric Thiriez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Oui, parce que vous êtes venu le monsieur énarque maintenant. Vous avez remis un rapport sur la haute fonction publique. Alors ça tombe bien parce qu'il y a la Cour des comptes qui étrit littéralement Polytechnique. On va y revenir. Puis on parlera quand même de foot. On va rappeler que vous avez été plus de 10 ans président de la Ligue de football professionnel. Est-ce qu'il faut jouer ce match OL, la Juve? On va voir ça dans un instant, mais pour l'instant, toute l'actu, la vraie actu avec Audrey Maubert. Bonjour Audrey.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Le CAC 40 reste dans le rouge, plombé comme les autres places européennes, Londres et Francfort, dans le sillage des places asiatiques par le coronavirus. Le CAC 40 évolue donc actuellement en recul d'1,57% à 5 590 points. Le pétrole plonge également, le prix du baril WTI a touché un plus bas depuis plus d'un an à 48,99 $. En France, trois nouveaux cas ont été confirmés. L'un des patients est décédé, un Français de 60 ans. Édouard Philippe réunit cet après-midi plusieurs ministres sur le sujet, également les chefs de parti et les présidents de groupes parlementaires. Plus d'une trentaine de pays touchés, après la Chine, la Corée du Sud particulièrement. Et puis les mesures de soutien économique se multiplient. La Chine annonce un vaste plan de soutien aux petites entreprises. Elles représentent 60% du PIB. Moins d'un tiers d'entre elles ont redémarré leur activité. Pékin va encourager les banques à leur octroyer des prêts préférentiels. Hong Kong prévoit de son côté 15 milliards de dollars de mesures pour soutenir son économie. Les entreprises et PSA résistent. Le constructeur a publié un bénéfice net record pour 2019 de 3,2 milliards d'euros. Aidé par le succès de ses SUV, il a accru sa marge. Des résultats solides malgré un tassement des ventes mondiales. Une année 2020 qui appelle toutefois à la vigilance vu le contexte international. Carlos Tavares, le président du directoire du groupe PSA, était il y a quelques instants sur BFM Business. Il réagissait sur cet équipementier du nord de l'Italie, MTA, dont l'usine est à l'arrêt en ce moment. Équipementier fournisseur de PSA et de beaucoup d'autres constructeurs européens, Carlos Tavares affiche une certaine sérénité.
Ce que je peux vous dire d'abord, c'est que nous avons un stock de véhicules disponibles qui doit rassurer nos clients. Les voitures sont disponibles, donc ils peuvent les commander et les faire livrer. Ça, c'est le premier message pour nos clients potentiels. Le deuxième message, c'est que nous avons lancé récemment des nouveaux modèles, comme nous le faisons régulièrement. Ces modèles, grâce au talent de nos collaborateurs, rencontrent un succès qui est assez remarquable. La dernière Peugeot 208, la Peugeot 2008, la Citroën C5 Aircross, les différentes DS7, DS3. Et donc tout ça fait que nous avons un carnet de commandes qui est extrêmement garni, nous avons du stock.
Donc et pas nous d'inquiétude avons... à court ou moyen terme en tout cas.
Et je finis, et nous avons des usines qui tournent à plein, et ça c'est le point important. Nos usines européennes, notamment françaises, tournent à plein, et pour l'instant nous avons sous contrôle la question des approvisionnements. Pour l'instant ça se passe bien. C'est une situation évidemment qui se présente devant tous les constructeurs automobiles, pas que devant PSA. Et nous avons développé, compte tenu de l'ensemble des situations que nous avons vécues, une capacité de concentration, de travail en équipe et d'agilité qui, je crois, va nous aider par rapport aux autres.
Carlos Tavares sur BFM Business avec Pauline Tadevin. Le titre Peugeot progresse dans un environnement baissier, hein, tire un peu son épingle du jeu, une progression de plus de 2%. Un environnement baissier, on y reviendra notamment avec les titres du luxe. Il y a eu les résultats d'Hermès, entre autres.
Merci Audrey, évidemment ça sera à 12h30. Dans un instant, on va parler des énarques, on va parler de football avec Frédéric Thiriez. C'est lui qui a remis ce rapport sur la haute fonction publique. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Frédéric Thériez, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes... Alors, on va le rappeler parce que, surtout ici, dans ce temple du football, du BFM, de RMC, on vous a connu surtout en tant que président de la Ligue de football, la Ligue de football professionnelle. Chaque fois, il faut faire attention de ne pas se tromper. Hein. Vous avez été pendant plus de 10 ans ce président. Donc, vous étiez monsieur football français. Mais là, vous êtes, on le sait peu, vous êtes énarque, conseiller d'État. Vous avez été avocat au Conseil d'État. Et là, vous avez donc remis ce rapport qui a fait couler un petit peu d'encre, ça aurait pu être pire, sur le rôle notamment de la haute fonction publique et de ses écoles de formation et notamment de l'ENA. On va revenir sur tous ces sujets, mais d'abord, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il fallait maintenir ce match Olympique Lyonnais Juventus aujourd'hui, sachant que en Italie, le coronavirus est un peu partout? Est-ce qu'il fallait prendre ce risque de faire venir des supporters italiens?
Dans ce type de crise, il y a une règle absolue. Obéir aux consignes des autorités sanitaires.
C'est ce que m'a dit Stanislas Guérini ce matin,
j'ai
là,
le patron de la République. J'ai eu moi-même à un épisode difficile avec le H1N1, lorsque j'étais président, suivre les consignes des autorités sanitaires. Il y a eu, je crois, une réunion de tous les ministres de la Santé d'Europe qui a conclu que pour le moment, il n'y avait pas lieu, au vu des avis des experts, d'empêcher la tenue de grands événements sportifs ou culturels. Je pense qu'il faut se tenir à cette position, qui peut évoluer demain. Hein. Tout peut évoluer.
Oui, parce que là, il y a un mort officiellement à Paris.
Mais ce soir, donc, il y aura 3000, je crois, Italiens à Lyon. Je pense qu'ils sont les bienvenus. Je crois que Jean-Michel Aulas l'a dit, il a eu raison. Et puis, espérons surtout que Lyon fasse l'exploit.
Oui, c'est surtout ça l'exploit, c'est ce qu'a dit en tous les cas Jean-Michel Aulas. Cela dit, est-ce que c'est pas parce que le foot, l'argent est devenu tellement important, c'est un enjeu énorme pour Lyon. Est-ce que, et pour le football français, parce que quand même, c'est quelle affiche. Est-ce que c'est pas ça qui a peut-être poussé à prendre un risque par rapport à cette épidémie?
Non, sincèrement, je ne crois pas. Encore une fois, les autorités sanitaires, les scientifiques étudient l'évolution de la situation et décident des mesures qui sont justes. Ce n'est pas une question d'argent. Il faut, encore une fois, respecter l'avis des scientifiques. C'est ce que j'avais fait, moi, à l'époque de H1N1. Mmh. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais encore une fois, la situation est très évolutive et il faudra chaque jour s'adapter.
Alors maintenant, on va revenir aux élites françaises, parce que quand même, c'est de ça dont on parle. Hein. Ça vous fait sourire. Il y a l'élite du football, et puis là, il y a l'élite quand même française. Le rapport de la Cour des comptes, je ne sais pas si vous l'avez lu, avec l'école polytechnique qui se fait littéralement étriller en disant l'école polytechnique a un modèle historique qui a perdu de sa cohérence interne, et puis évidemment, dans le collimateur, le coût de l'excellence avec 36 370 € par an et par élève, sachant que finalement qu'il y en a un sur sept qui va ensuite dans la fonction publique. Oui, commentaire alors, de celui qui a pondu la future réforme.
La Cour des comptes est dans son rôle en faisant ça. On ne peut pas dire qu'elle étrille l'X. Elle fait son boulot. Elle critique le montant des dépenses.
Vous voulez que je continue?
Il y a une difficulté, sans doute, mais qui ne relève pas du tout de moi. C'est faut-il continuer à rémunérer les élèves en scolarité, puisque seulement 15% au fond vont devenir hauts fonctionnaires. C'est une question qui relève vraiment pas de ma compétence. En revanche, il y a dans ce rapport quelque chose qui me concerne directement, puisque je l'ai étudié dans mon rapport, c'est le problème de l'absence de diversité à l'école polytechnique.
Oui, oui, alors on va venir, parce que
80%,
ça me semble...
80% d'enfants de CSP+, comme à l'ENA, et surtout seulement 20%, même moins de 20% de filles. Ouais. Ça doit vous interpeller.
Ah, ça m'interpelle beaucoup, vous inquiétez pas.
Là, il y a des choses à faire, et d'ailleurs, l'IX va à proposer des mesures que j'approuve totalement.
Mais je voulais rester quand même un instant sur le point de savoir ces écoles, on les rémunère. En 2018, l'école n'a formé que 7% des élèves pour le compte du ministère des Armées, donc qui est le ministère de tutelle. Est-ce que c'est pas quand même... étonnant, c'est le problème de l'ENA aussi, c'est-à-dire qu'au départ c'est une école qui est faite pour former la haute administration. C'est idem pour Polytechnique, évidemment dans des ministères différents. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les patrons du CAC 40 ou les autres, c'est que des polytechniciens ou des énarques. Donc ce sont des gens qui ont quitté la fonction publique et en général très jeunes. C'est pas là où il y a le problème ?
Si, il y a ce problème, et d'ailleurs je l'aborde dans mon rapport, c'est la question des passages entre le secteur public et le secteur privé. Alors ce que je vais dire va peut-être déplaire à certains, mais tant pis, je le dis parce que je le pense.
Oui.
Je pense qu'il faut encourager ces échanges entre secteur public et secteur privé. Et surtout à cette antenne, je dirais qu'on ne peut que s'enrichir L'administration elle-même ne peut que s'enrichir de gens qui ont fait une expérience au secteur privé, à condition qu'ils puissent revenir.
Oui, ce n'est pas, mais dans les deux sens.
Et dans les deux sens, à condition qu'ils puissent revenir. Et c'est là où ça pose souvent problème, compte tenu des niveaux de rémunération dans le public.
Et de conflit d'intérêt aussi.
Ils sont très inférieurs, alors. Bien sûr, respect des règles
déontologiques. Ça peut soulever.
Ça, c'est dans la loi, et il y a un dispositif qui est extrêmement sévère là-dessus. Mais de la même manière, il faut aussi permettre, comme la loi nouvelle le permet, de recruter des gens du secteur privé dans les emplois de direction dans l'administration. Ça, c'est aussi une bonne respiration. Tout le monde a à gagner à ces échanges et à ces passerelles.
Oui, en même temps, on voit bien quand même, là c'est moi qui me fais des ennemis, mais c'est vrai qu'il y a un peu une perte de compétences de la haute fonction publique. La France était très connue pour reconnue pour ses hauts fonctionnaires, qui étaient à la direction du FMI, qui étaient à la direction de la Banque mondiale, qui étaient à des directions très prestigieuses. Aujourd'hui, les éléments les plus brillants sont passés dans le privé. Donc c'est là où il y a un petit problème. Est-ce qu'il ne faut pas que l'ENA, que dans votre réforme, dans votre rapport, vous parlez de la réforme de l'ENA, est-ce qu'il ne faut pas que, quand on fait l'ENA, eh ben on reste dans la fonction publique, d'abord dans un premier temps, mais dans un bon temps, un temps long, quoi.
Mais je rappelle d'abord qu'il y a des règles, tout de même depuis très longtemps. C'est la règle des 10 ans. Lorsque vous entrez à l'ENA, par exemple, ou dans une autre école du service public,
vous
signez pour 10 ans. Et si vous ne respectez pas ces 10 ans, vous devez rembourser non seulement vos frais de scolarité, mais aussi les traitements et salaires que vous avez reçus pendant votre scolarité, ce qui peut représenter des sommes assez, assez importantes. Mais dans le respect de la déontologie et dans le respect de l'engagement de 10 ans, je pense qu'il faut plutôt encourager les passages de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un.
Alors, expliquez-nous quels sont les points clés que vous préconisez. On en a parlé ici même. Qu'est-ce que vous préconisez, notamment par exemple pour l'ENA? Il y a la question de la mixité, la question de la culture générale, qui est aussi un point important. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, avant de venir aux mesures, on ne va pas énumérer les 42 propositions.
Ah non, non,
surtout
non.
Pas. On n'a pas
le temps. Bien sûr, c'est pour ça que je dis les vôtres.
La philosophie, c'est quoi? Il y a, on le constate, un fossé croissant entre les Français et leurs élites, entre guillemets. Nos concitoyens ont le sentiment, à tort ou à raison, mais quand même, je pense que c'est plutôt à raison, que les gens qui décident pour eux ne sont pas proches de leurs préoccupations. C'est ça qu'il faut changer. Il y a une crise des élites en France. Et on en a connu dans l'histoire, faut s'en souvenir. La défaite de 1870, faillite des élites, qu'est-ce qu'on a fait ? Création de l'École libre des sciences politiques en 1872. Défaite de 1940, faillite des élites. Qu'est-ce qu'on a fait ? 1945, l'ENA. Le général de Gaulle et Michel Debré créent l'ENA. Alors, je ne dis pas qu'on est aujourd'hui dans cette situation, mais je pense qu'il est temps d'agir pour que les gens retrouvent confiance dans leurs dirigeants. Il y a en gros 4 choses à faire, et c'est celle que je développe dans le rapport. Premièrement, ouvrir notre haute fonction publique. Est-ce qu'il est normal que 80% des énarques et des X soient des CSP, des enfants de CSP+,
non. Des fils d'eux.
Est-ce qu'il est normal qu'il faille forcément monter à Paris, lorsqu'on vient
Là, c'est à Strasbourg, l'ENA, en l'occurrence.
Que le concours se prépare à Paris. C'est Sciences Po Paris. Ouais. De même, les quatre grandes classes préparatoires aux grandes écoles pour l'X sont parisiennes. Est-ce que c'est normal de devoir monter à Paris? Non. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait que 20% de filles à Polytechnique? Non. 30% seulement de filles au concours externe de l'ENA? Non. Donc, c'est un premier grand chantier. Simplification des épreuves, création de classes préparatoires, égalité des chances à travers tout le territoire. Deuxième mesure très importante, combattre le corporatisme et l'esprit de caste. La France, la fonction publique, meurt de ce corporatisme.
Vous préconisez la suppression des corps. Grosso modo,
classement. En tout cas, un tronc commun.
C'est l'État dont vous faites partie,
Oui, mais une formation commune à tous les fonctionnaires. Et ne parlons pas que de l'ENA, il y a au moins 7 écoles de la haute fonction publique avec l'ENA, plus les écoles d'application de l'École Polytechnique. Il faut que tous ces gens, j'ai proposé 6 mois, travaillent tous ensemble. C'est ce que j'ai appelé le tronc commun. Ils seront ensemble pour acquérir, je dirais, les valeurs du service public, les valeurs communes, mettre fin à ce corporatisme, cet esprit de corps qui fait que les gens s'ignorent, se méfient les uns des autres, acquérir cette formation ensemble. Et puis, il faut professionnaliser la formation. Aujourd'hui, l'ENA, par exemple, se prétend école d'application. Elle ne l'est pas. Ouais. Elle ne l'est pas pourquoi ? Parce que lorsqu'on entre à l'ENA, on ne sait pas quel métier on fera à la sortie, puisqu'il dépend du classement de sortie. Donc, je propose de supprimer le classement de sortie et que les choix se fassent par rapprochement entre les vœux des élèves et les souhaits des administrations.
Oui, mais à ce moment-là, je veux dire, si tout le monde voudra être inspecteur des finances ou conseiller d'État, parce que c'est ce qui ouvre le plus des portes, c'est pas possible. Donc, il faut bien décider. À ce moment-là, on peut mettre toute la promotion à l'inspection des finances ou au conseiller d'État, mais c'est pas possible.
Mais non. Vous savez, dans les écoles les plus modernes dans le monde, il n'y a plus de classement de sortie.
Mais s'il y en a
L'école polytechnique envisage de supprimer son classement de sortie.
Officiellement, moi qui viens d'HEC, je peux vous dire, on a supprimé le classement. Bah, tout le monde sait qui a été dans les 10 premiers. Voilà,
Attention, suppression du classement ne veut pas dire suppression des notes.
Oui,
les élèves continueront à être notés, ils choisiront des dominantes en cours d'école et ça aidera à la procédure d'affectation.
Un point. Mais là, je trouve que le tronc commun, on voit bien que c'est intelligent. Ça peut surtout faire de la mixité à tout point de vue, territorial, de finance versus
diplomatie. N'oublions pas les directeurs d'hôpitaux, les commissaires de police, les directeurs de prison,
les préfets, etc. Voilà.
Et magistrats judiciaires.
Oui. Tout à fait.
Même, parce que je sais que ça fait débat. Hein.
Oui.
Même s'ils ne sont pas des hauts fonctionnaires, tout le monde le sait, il n'est pas anormal qu'ils aient une formation commune pendant un moment avec les autres corps de l'État.
Et ça permet de connaître aussi le fonctionnement de l'État, donc ça peut être important. Toute dernière question, quand même. Suppression de grand taux, de l'écrit sur la culture générale. Qu'est-ce que vous avez tous avec la culture générale française ? Il y a déjà Nicolas Sarkozy qui trouvait que la princesse de Clèves, il ne fallait pas la l'enseigner. Et vous voulez supprimer Frédéric Thiriez ?
Alors,
l'examen de culture générale.
C'est vraiment très amusant que tout le monde se focalise sur cette épreuve de culture générale. Mais il ne s'agit pas de supprimer.
Surtout à l'heure de Twitter.
Il ne s'agit pas de supprimer la culture générale. Pas du tout. Ce n'est pas ce que je propose. Que je dis simplement, c'est que l'épreuve de dissertation de culture générale, qu'on a appelée composition, et qui en fait n'a rien changé. C'est une dissertation en deux parties, deux sous-parties. C'est l'épreuve la plus archaïque et la plus stupide que je connaisse.
Pourquoi ?
Parce qu'on a affaire à des élèves, des étudiants, qui sont quand même Bac+5, qui ont souvent deux maîtrises. Et elle en fait faire une dissertation en deux parties, deux sous-parties, ça n'a pas de sens. Je propose, en revanche, qu'il y ait une épreuve centrée sur les problèmes contemporains, comme on dit, de culture générale, qui soit une note sur dossier où les étudiants devront analyser une question et surtout prendre position, personnellement, prendre une position argumentée. Exemple, pour ou contre la GPA, j'analyse et je prends une position. Parce que...
Il ne faut pas mieux connaître Victor Hugo, ce qu'il a dit,
à Bac plus 5,
qu'il a tenus.
À Bac+5, tous nos élèves, ils connaissent
sur la République
Montesquieu,
en 1848,
Victor Hugo, Zola. C'est vraiment une épreuve archaïque d'un académisme d'un autre temps. Il faut se moderniser un peu. On n'est plus en 1945 ou en 1794.
Quand même, la culture, ça existait. Il y a eu des gens avant nous, vous savez.
Donc,
c'est important de savoir comme l'histoire se répète.
La culture générale continuera à exister. Bah,
Frédéric Thiriez, on va faire un débat là-dessus. Tiens, c'est une bonne idée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On dit quoi ? Conseiller d'État ? Monsieur le conseiller d'État, pour vous ?
On dit Frédéric Thiriez.
Frédéric
même. Dans le foot, tout le monde s'appelle par son prénom.
Voilà, donc c'est quand même le foot qui domine. Hein. Merci surtout aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. On parlera du bonheur, on parlera des mails, justement, et pourquoi on rêve. On ne sait plus comment répondre. La nouvelle hiérarchie dans les rapports humains, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est avec la Danoise qui est prof à Sciences Po et prof à HEC, Malène Ridal. À tout de suite.
BFM Business, l'heure H, l'invité.
Souvenez-vous, elle était venue nous voir il y a maintenant quelques années pour son livre sur le bonheur à la danoise. C'est l'ambassadrice du bonheur. En tout cas, c'est comme ça qu'on la présente. Malène Ridal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Merci de revenir nous voir. Vous publiez un livre, Je te réponds, moi non plus. L'art de répondre et de comprendre les non-réponses à l'ère digitale. Et bien sûr, c'est chez Flammarion. C'est une question comme ça qui peut paraître anecdotique, mais quand on lit votre livre, et surtout quand c'est du vécu pour nous tous, où on est submergé par les mails, vous dites il faut essayer de hiérarchiser la manière dont on répond, notamment aux mails. Vous dites 8 personnes sur 10 préfèrent recevoir un message, même négatif, que faire face au silence. Alors d'abord, pourquoi ce livre et qu'est-ce que vous cherchez à démontrer ?
En fait, si vous voulez, moi, mon sujet principal, c'est le bien-être et notamment la performance dans les entreprises. Et cette fois-ci, j'ai identifié une source de frustration, de malentendus, de conflits avec les autres. Donc, c'est ce phénomène qui est en train d'émerger de la non-réponse, évidemment, par rapport au nombre de messages. Ça a été multiplié, le message qu'on reçoit aujourd'hui. Il y a le mail, les SMS, le WhatsApp, les médias sociaux, etc. Et donc, cette masse de messages, bah, ça fait émerger ce phénomène de la non-réponse. J'ai observé déjà les frustrations, les malentendus que ça créait, et puis j'ai voulu avoir le cœur net et d'aller un peu plus loin. Donc j'ai réalisé un sondage avec le cabinet Occurrence pour connaître les conséquences de cette phénomène. Et en fait, il se trouve que 2 personnes sur 3 se trouvent humiliées, ignorées, pas respectées face à une non-réponse. Donc c'est une conséquence émotionnelle assez grave.
Et oui, et puis surtout, c'est que il y a une question importante que vous soulevez, c'est que aujourd'hui, du coup, il est beaucoup plus difficile d'obtenir une réponse d'un décideur ou des décideurs ou de ces décideurs.
On dit que dans les 10 dernières années, ça a été multiplié par 2 le nombre de relances qu'il faut faire si on prospecte, on va dire, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais il y a un vrai enjeu de réputation aussi pour les entreprises, parce que quand on pose la question « Que pensez-vous d'une personne qui ne répond pas à vos messages, même après une petite relance ?» 75 à 80% des gens répondent « Je les trouve prétentieux, égoïstes, mal élevés et même mal organisés, c'est-à-dire pas fiables. »
Oui, donc il y a la réputation de l'entreprise aussi qui est en jeu du salarié, mais aussi ou du décideur, mais aussi de l'entreprise, hein, c'est ça que vous dites.
C'est une organisation à mettre en place, à définir son système de réponse. Parce qu'évidemment, on peut vite devenir esclave de la réponse, parce que notamment, il y a des gens qui reçoivent des centaines de messages, notamment les journalistes,
extrêmement
sollicités. Et donc, à un moment donné, si vous devez répondre à tout et n'importe quoi, vous passerez votre vie à faire cela. Non, ce que j'invite les gens à dire, c'est de se poser quelques questions aussi avant d'envoyer un message. Donc, par exemple, dans votre cas à vous, si on vous envoie un message qui n'a rien à voir avec votre émission, évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre à quelqu'un qui a pris 0 temps pour vous faire ce message. On doit à peu près aux gens ce qu'ils ont mis.
Ah oui, ça c'est une... Je vais retenir la leçon. Surtout, c'est qu'aujourd'hui, la conversation téléphonique, le fait d'appeler, et on le vit, mais c'est un peu triste, mais c'est comme ça, la conversation téléphonique, vous dites, elle est perçue un peu comme une intrusion, en fait. Le fait de parler en direct, et puis en plus, ça change le rapport de force.
En fait, si vous voulez, le téléphone, le fait d'appeler quelqu'un, pour les jeunes, c'est senti, ressenti comme une intrusion. Donc, ils n'aiment pas vraiment quand on les appelle. Donc, ils préfèrent ces conversations faussement instantanées. Donc, on appelle ça des messages instantanés. Mais en fait, il n'y a rien d'instantané dedans. Parce qu'on peut très bien dire le matin comment ça va et après, le soir, répondre très bien. Et donc, ça va assimiler une conversation instantanée, mais ça ne l'est pas.
Il y a le SMS, il y a le mail. Comment vous hiérarchisez, je dirais, dans les rapports avec autrui au sein de l'entreprise, on va rester là-dedans. Comment vous hiérarchisez ça, Malène Rédal?
Écoutez, je pense que c'est à chaque personne de se poser cette question sur son propre système et à pouvoir le communiquer avec les autres, parce que ça va faciliter les rapports quand même, à ne pas avoir des gens, 2 personnes sur 3 qui se trouvent blessés, ignorés, humiliés parce qu'on n'a pas répondu, si on a un temps de réponse qui est plus long. Il faut savoir que dans le sondage, donc on a sondé auprès de 3000 personnes dans 6 pays, le temps de patience, c'est-à-dire avant de considérer que c'est une non-réponse, et 3 heures pour les messages instantanés et dans la journée pour les mails. Donc, à partir de ce moment-là, 50% des gens, on va déclencher ce sentiment de rejet, de désamour, et donc avec un jugement qui suit d'être égoïste et prétentieux et mal élevé.
C'est ce qui vous est arrivé, c'est l'origine de ce livre, on va le révéler, c'est que vous aviez envoyé un message à une collègue lorsque vous avez quitté vos fonctions que vous aviez dans une chaîne hôtelière, et elle ne vous a pas répondu, vous avez commencé à faire tout un scénario, puis en fait pas du tout, voilà. Donc c'est on a tous vécu ça. Il y a le SMS, alors, parce que pour vous, il y a une hiérarchie quand même. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien lu votre livre, il y a une hiérarchie. Le SMS, vous dites, c'est entre les deux, entre l'email et puis le message Facebook ou WhatsApp. C'est-à-dire que c'est très informatif, c'est moins formel qu'un mail. Oui. C'est ça que vous nous. Non, c'est intéressant d'avoir la hiérarchie des codes. Et d'abord, est-ce qu'ils sont les mêmes dans les pays où vous avez fait ce sondage?
Plus ou moins, on voit les mêmes tendances dans les six pays. J'ai sondé donc la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, le Danemark et la Corée du Sud. Le pays qui diffère un peu, c'est la Corée du Sud, où ils le prennent beaucoup plus à cœur. Donc, je pense que c'est lié évidemment culturellement au fait de perdre face à l'autre quand on n'a pas de réponse. Mais de manière générale, le mail reste le moyen dans les affaires, dans les entreprises, le plus classique, hein, le plus formel aussi. Et puis après, effectivement, le SMS et après le WhatsApp, c'est quand même beaucoup plus informel comme communication.
Oui, parce que pour vous, il y a un rapport de force qu'on ne mesure pas forcément. Mais c'est ça qui émerge, c'est qu'en fait, il faut se rendre compte que quand on envoie un mail ou quand on ne répond pas à un mail, il y a tout un rapport de force qui s'exerce derrière.
En tout cas, c'est un sujet très sensible et qui va rapidement réveiller nos insécurités. Et donc, c'est pour ça que c'est le fait qu'on va imaginer des scénarios pires qu'un non ou pires qu'un rejet, ça mobilise plutôt des pensées négatives sur soi. Et donc, effectivement, je pense qu'il s'agit de prendre un peu de recul pour les personnes qui se sentent tout de suite rejetées. Parce qu'il faut comprendre que quand on va chercher les vraies raisons de la non-réponse, c'est-à-dire qu'on ne vous répondait pas quelles sont les raisons principales, il se trouve que 50% de l'explication relève de ce que j'appelle la charge mentale. C'est-à-dire que j'ai trop de mails, j'ai pas assez de temps, j'ai oublié. Donc, rien à voir avec la personne. Ensuite, vous avez je n'aime pas dire non, je me sens pas bien moi-même.
Oui, la peur de dire non.
La peur de dire non, qui est quand même une raison. Alors, vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est contre-intuitif parce que 80% des gens disent préférer une réponse négative, voire désagréable, à une non-réponse. Mais il y a ce je n'aime pas dire non pour pas plaiser les autres. Alors qu'une toute petite partie disent 10 à 15% je n'aime pas la personne, je trouve pas la personne assez importante. Donc, par rapport à deux tiers qui se trouvent rejetés et pas aimés, c'est évidemment disproportionné.
Allez, dernier petit conseil pour conclure, Malène Ridal. Gestion de nos non-réponses, vous avez un conseil pour ceux qui nous écoutent
Absolument, c'est de définir déjà son propre système de réponse, parce que sinon, si on n'a pas de système, on peut avoir de la culpabilité, du stress, en disant que j'aurais dû répondre, etc. Dès lors que vous avez défini un système, je conseille de le communiquer avec ceux avec qui on est en contact pour éviter qu'ils se sentent rejetés, blessés, etc. et pour créer des meilleures relations avec plus d'empathie.
Merci beaucoup, très intéressant, et en plus dans le livre, c'est une espèce de reflet de notre vie au quotidien, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Merci beaucoup Malène Ridal, je te réponds moi non plus, c'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant on parle du cinéma avec Nicolas Assédou, il est le patron de Gaumont. On parlera des Césars, on parlera de Cannes, on parlera de Netflix, on parlera du cinéma français qui se porte bien.
BFM Business midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
C'est une des figures emblématiques du cinéma français qui est avec nous, Nicolas Assédou. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes président du conseil de surveillance de Gaumont. En plus, Gaumont, c'est la vieille dame du cinéma tout court, parce que du cinéma en France, mais aussi du cinéma dans le monde. Donc, il faut le souligner. Les Césars. C'est vendredi prochain, 45e cérémonie des Césars. On sait que c'est une cérémonie qui sera sous tension avec toute l'Académie des Césars qui a démissionné. Alain Terzian, le président des Césars, qui est parti, qui a été balayé. Et puis, évidemment, le point de départ, cette polémique autour des 12 nominations du film J'accuse de Roman Polanski que vous avez produit, Gaumont. Est-ce que vous allez assister à la cérémonie? Et on sait que Roman Polanski devrait assister, peut-être que vous pouvez nous le confirmer, à la cérémonie vendredi soir.
Alors, je n'assiste plus depuis plusieurs années à la cérémonie des Césars.
Oui, mais là...
Comme vous l'avez dit, je suis président non exécutif et donc ça n'a rien à voir avec les polémiques de cette année. Alors d'abord la polémique autour d'Alain Terzian. On dit du cinéma que c'est une grande famille. Le propre des grandes familles, c'est de laver leur linge sale en famille. Or, vous voyez, ça fait le titre de l'actualité et je ne peux que le regretter. Et quant à moi, en tout cas, je ne tire pas sur les ambulances. Alors Gaumont,
Mais est-ce que vous saviez tout ça? Tout ce qui est sorti, du reste, une des premières informations était sortie d'ici, grâce au journaliste Jamalani.
Non, non, mais attendez. Depuis un certain nombre d'années autour des Césars, il y a des réflexions et des réactions. Tout le monde le sait. Mm-hmm. Qu'à la veille de la manifestation, il y a un tel lynchage médiatique, je trouve que c'est un peu exagéré. Et j'aurais préféré que le cinéma soit capable de régler ça entre soi. Alors le deuxième sujet, il est tout à fait important, et vous ne pouvez pas imaginer, et personne ne peut imaginer, que Gaumont ou personnellement, nous ne pensions pas que la dignité des femmes, et particulièrement si elles sont jeunes, eh bien c'est sacré, même si ce n'est pas mon mot préféré. Quand nous prenons la décision de produire J'accuse, quelle est la situation? Roman Polanski est un citoyen libre en France, accusé de rien. Mais ce n'est pas là-dessus que nous nous fondons. Nous nous fondons sur le fait...
Il est accusé déjà de ce qui s'est passé aux États-Unis.
En France...
Oui, mais en France, ça dépasse les frontières, Nicolas Sédou.
Attendez.
Oui.
Écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi, c'est beaucoup trop important. Oui. 10 ans auparavant, très exactement, en fin 2009, Roman Polanski est alors en Suisse... Et il est l'objet d'une demande d'extradition par les autorités américaines. Il va faire 2 mois de prison en Suisse et il va être assigné 6 mois à résidence. Les autorités suisses décident de ne pas l'extrader. C'est donc que le cas américain pour la justice suisse ne mérite pas une extradition. Mmh. Donc voilà la situation de Roman Polanski en Europe. Il n'est accusé de rien. Alors, par ailleurs, à la veille de la sortie du film, il y a une personne qui dit qu'elle a été violée. Mmh. Il y a prescription, elle ne peut pas le prouver, Roman Polanski ne peut pas se défendre. Mais voilà la situation juridique. Donc, dire que Roman Polanski est un violeur établi, je m'excuse, il n'y a que la justice qui puisse établir ça. La justice ne l'a pas établi à ce jour.
Voilà. Donc vous trouvez que la polémique autour de Roman Polanski, conduite notamment par, elle sera là aussi, Adèle Haenel, tout ça, et quoi,
non,
ça
non,
vous choque?
Non, non,
est-ce que ça vous choque?
Non, elle ne conduit pas la polémique.
Elle conduit à la polémique, le fait qu'ici, il conduit à la polémique,
elle
est sortie du film.
Elle n'a pas été, d'une façon ou d'une autre, impliquée avec Roman Polanski. Ce que je veux dire, c'est que le sujet, ce sont les femmes qui auraient pu être l'objet de violence. Elles ne peuvent pas le prouver, ce n'a pas été prouvé. Et je dis que jusqu'à preuve du contraire, dans une démocratie, tant que vous n'avez pas été condamné par la justice, vous êtes innocent. Mmh. Et moi, j'insiste sur le fait que c'est très, très important. La dénonciation, le lynchage médiatique, c'est simplement abominable. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. Quand nous avons pris la décision, tous les éléments étaient absolument neutres. À partir de là, qu'il y ait des polémiques, c'est naturel. À ce point-là, je pense que c'est exagéré.
Ce mouvement MeToo, est-ce que ça change, ça balaye un peu tout l'existant?
Non. Ce que je veux dire, c'est que d'abord penser qu'il n'y a que le cinéma où des femmes...
Non, mais l'existant dans le cinéma, j'entends.
Reste
dans le cinéma.
Le fait que des hommes se soient mal conduits depuis très longtemps avec des femmes, et particulièrement des jeunes femmes, malheureusement, c'est un fait de société. Il faut tout faire pour que ce phénomène de société s'arrête. Et en général, et c'est le pire, ça commençait dans les familles. Bon, donc, soyons clairs, de ce côté-là, je suis absolument intransigeant. Il n'y a pas que le cinéma. On sait très bien que, souvent, une jeune vendeuse, elle est harcelée par son supérieur hiérarchique, etc.
Ça.
Donc, le cinéma... Alors, ceci dit, on en parlait il y a très longtemps. On parlait, entre guillemets, la caricature de l'homme au cigare qui... que sais-je. Bon.
Donc, Harry Weinstein qui vient d'être condamné,
donc,
du reste.
Je ne défends personne qui serait coupable. Mais en revanche, qu'on ne dise pas que quelqu'un est coupable, parce que ça n'a pas été prouvé par la justice. Je ne dis rien d'autre.
D'accord, ok. En soutien, est-ce que vous ne serez pas là au César?
Mais je vous dis, je n'y suis plus depuis 10 ans.
Oui, mais la situation, elle est très particulière, là.
La situation est très particulière. Justement, ce serait donné une importance excessive. Je rappelle d'ailleurs que Gaumont a d'autres films, Hors Normes, par exemple, qui est également dans les meilleurs films qui peuvent être cités. Donc, c'est simplement que depuis quelques années, je n'y vais plus. Je ne trouvais pas plus raisonnable d'y aller cette année qu'une autre année.
Ouais. Quel est le dernier score de J'accuse ? Parce que le film, très bon film du reste.
Le film a attiré 1,5 million de spectateurs en France et plus d'1 million à l'étranger.
Mmh. Est-ce que est-ce qu'on peut séparer les deux ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un film formidable et puis éventuellement un réalisateur qui est condamnable ? Ou c'est une seule et même personne ?
À l'heure actuelle, n'est pas condamnable.
Oui, mais c'est pour ça que je n'ai pas cité le nom. En général.
Alors, je crois qu'en tout cas, quand on regarde l'histoire, aujourd'hui, vous parliez de cinéma, je suis prêt à y rester, tout le monde sait que Hitchcock n'était peut-être pas impardonnable avec ses jeunes actrices. Mmh. Le cinéma d'Hitchcock, pour autant, est là. Le Marquis de Sade, Casanova... alors, le Marquis de Sade, ce n'est pas en général avec des femmes jeunes. Mais ça a donné un nom. Parlons d'un auteur dont on a beaucoup parlé il y a 18 mois, Céline. C'est un salaud absolu. Malheureusement... Ce salaud est un grand écrivain.
Mais en même temps, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, aujourd'hui, il y a même une exposition sur la Renaissance qui est quasiment déprogrammée parce que c'était que des hommes, parce que il y a des hommes des histoires.
Je crois.
Il y a un mouvement très fort.
Je crois qu'il faut être très attentif au fait que dans le domaine culturel, je pense que la liberté d'expression est absolument clé. Je ne défends pas les salauds si ils sont des salauds prouvés. Soyons absolument clairs.
D'accord,
il n'en demeure pas moins que nous avons, en littérature, dans le théâtre, dans tous les arts, des gens qui se sont mal conduits et qui ont été de grands artistes.
Nicolas Segoux, il y a aussi Cannes. Cannes, où il y a Pierre Lescure qui candidat à 74 ans, qui est candidat à un troisième mandat. Mais on se dit, tiens, il faudrait peut-être mettre une femme. Comment est-ce que vous voyez arriver Cannes, où vous allez, pour le coup ?
Où je vais, pour le coup.
Voilà.
Absolument.
Et est-ce qu'il faut un nouveau président, il faut une présidente ?
Écoutez, je vais dire d'abord que Cannes 2019 est un Cannes exceptionnel, avec la découverte d'un nouveau talent, Les Misérables, avec une clôture avec hors norme, qui est une clôture hors norme, c'est-à-dire de grande qualité, en général tout le monde est parti. Et enfin, le jury qui choisit simplement un film, qui va recevoir 6 Oscars, ce qui montre bien que la sélection de Cannes était une sélection de grande qualité, et deuxièmement, que le choix du jury, ben, il est approuvé par la plus grande académie du monde, celle des Oscars. Alors, à partir de là, est-ce qu'à un certain âge, je ne sais pas, mais vous ne devriez pas m'inviter, parce que...
Mais vous êtes chez vous.
Pierre Lescure est
parce
un bambin.
Parce que Gaumont vous appartient, enfin, appartient à votre famille.
Pierre Lescure est un bambin à côté de moi.
Oui. Bon,
non, mais je souris. Le fait que demain, une femme puisse être présidente du Festival de Cannes, sûrement, c'est bien si elle connaît bien les sujets du cinéma et du cinéma international notamment.
Ouais.
Bon, ce que je crois que tout le monde peut dire, c'est que Pierre Lescure, sur 2 mandats, a été un très bon président, que quand on fait 2 très bons mandats, on est susceptible de faire un 3e mandat. Si les pouvoirs publics qui sont décisionnaires en la matière pensent qu'il vaut mieux une femme, c'est très bien. Alors, je reviens une seconde
mais vous,
sur
que
les
vous pensez,
Césars.
Puisque vous avez une liberté de parole, comme vous dites, vous êtes chez vous, vous êtes une des figures emblématiques du cinéma. Qu'est-ce que Nicolas Sédoux pense ? Est-ce que vous avez un choix ? Est-ce que vous pensez à quelqu'un ?
Écoutez, je pense que si je vous donne un nom, il est torpillé. Donc, je ne vais pas vous donner de nom. En revanche, je reviens une seconde sur les Césars. La grande différence entre Cannes et les Césars, c'est que les Césars ne sont pas financés par les pouvoirs publics.
Oui. D'accord, mais comme ça au moins. C'est des... Tiens, Netflix. Je me souviens, vous étiez venu là en disant bah, c'est normal qu'à Cannes, on ne sélectionne pas des films de Netflix. Est-ce que c'est toujours sur cette position, sachant que Gaumont a produit une des meilleures séries de Netflix, en l'occurrence Narcos. Donc alors, là, vous êtes un peu schizophrène chez les Gaumont.
Non, absolument pas schizophrène. Gaumont travaille aujourd'hui aux États-Unis, en Allemagne et en France, avec des plateformes qui, hélas, sont toutes, pour le moment, californiennes. Bien. Et ce n'est pas la faute des Californiens, c'est peut-être parce que nous n'avons pas réagi suffisamment vite. Nous pensons que ce qu'on appelle un film de cinéma, ce n'est pas l'œuvre qu'il définit. que je veux dire, c'est que le premier film de Spielberg, Duel, il était fait pour la télévision. Donc c'est pas l'œuvre qu'il définit, c'est son passage dans la salle de cinéma. Donc c'est simplement que le cinéma a des règles, et je pense que ces règles, et je ne suis pas le seul, elles doivent être maintenues. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre cinématographique et puis des œuvres audiovisuelles. Que nous travaillons.
Donc pour vous, Irishman, c'est une œuvre audiovisuelle. C'est pas du cinéma. Le film donc produit par Netflix avec Robert De Niro, Al Pacino, Enco.
Attendez.
Ce n'est pas sorti en salle, donc ce n'est pas du cinéma.
Dans les salles, ce n'est donc pas une œuvre cinématographique. C'est les Français.
Quand même là, ouais.
Mais c'est la seule définition de l'œuvre cinématographique. Ouais. La seule définition de l'œuvre cinématographique, c'est de commencer sa carrière dans un cinéma. Et c'est en France que Duel est devenu une œuvre cinématographique, grâce d'ailleurs à l'époque au Festival d'Avoria. Et il est sorti en France dans les salles, et après il est devenu un film de cinéma.
Mais est-ce que Netflix ne va pas tuer les salles de cinéma ?
Il n'est pas du tout exclu d'abord que Netflix, si Netflix demain, comme ils l'ont dit, investit dans l'audiovisuel et notamment dans le cinéma, que ces investissements dans le cinéma sortiront comme des films. Ils sortent donc d'abord dans les cinémas. Alors, je voudrais insister sur un élément. Le cinéma, il y a un mythe dans le cinéma. Vous et moi, nous avons la chance d'aller à l'opéra. Entre écouter un très bon DVD chez soi et aller à l'opéra, ce n'est tout de même pas tout à fait la même chose. Ben, c'est exactement la salle de cinéma, c'est partager une émotion collective, en parler avant, convaincre la personne qu'on veut voir ce film, et en parler après, qu'est-ce que tu en penses ? C'est nul, le film est mort, c'est formidable, et le film va faire une belle carrière.
Oui, cela dit, lorsque vous voyez les chutes de vente de DVD en 2019, vous vous dites...
Alors c'est la piraterie, ça.
Oui.
Là, il faudrait tout de même pas oublier ce sujet, même si nous avons...
Il disparaît quand même un petit peu, la piraterie, non ? Vous qui étiez...
La piraterie ne disparaît pas, nous avons réussi à faire en sorte, grâce à de bonnes plaidoiries, que les tribunaux systématiquement condamnaient les sites, et qu'il y a aujourd'hui... que les sites ont moins d'audience. Et que donc, la baisse de l'audience de la piraterie a permis à l'audience légale de monter. Pour autant, quand vous avez de l'ordre de 9 millions de Français qui, tous les mois, téléchargent systématiquement, c'est pas très favorable à l'offre légale, et notamment à l'offre des télévisions. Alors, je voudrais revenir également sur un mot. C'est que le sport commence à en être victime. Bon. Et que pour le sport, c'est simplement dramatique. Parce que si vous avez d'un côté le cinéma, de l'autre côté le sport qui est téléchargé, ben il est évident que Canal+ perd des abonnés.
Tiens, avant de parler Canal+, je voulais quand même... le cinéma, la pub pour le cinéma à la télé. C'est une bonne idée, ça ?
Ah ben, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est satisfait.
Dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel.
Moi, j'ai vu que ce qui était prévu à l'heure actuelle, vous savez que le cinéma n'y est pas favorable...
Mais par contre, un Gilles Pélisson de TF1 y est assez favorable.
Non, mais les agences de publicité trouvent que c'est beaucoup trop limité. Disons que la chaîne qui voudrait aucune restriction, qui est M6, trouve que c'est beaucoup trop limité. Donc aujourd'hui, on a
une
demi-mesure qui ne plaît à personne.
D'accord. Donc il faut aller. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas favorable à la pub avant le cinéma ?
Écoutez, nous avons réussi. Mes prédécesseurs et la génération actuelle, et les générations un peu plus jeunes que nous, à faire en sorte que le cinéma français soit le second du monde. À travers un mécanisme d'une complexité très grande. C'est de la dentelle. Bon. Et que dans cette dentelle, il y a le fait que vous avez eu, j'ai cité quelques films, vous en avez cité d'autres tout à l'heure, le fait qu'il y ait côte à côte à Cannes et dans les salles de cinéma, Les Misérables, Hors Normes, des grands films populaires américains, c'est absolument formidable. Donc il faut être un peu prudent pour ne pas détruire ces équilibres. Je constate d'ailleurs que les autres secteurs culturels, l'édition, ne font pas partie, alors que nous étions toujours associés aux autres secteurs culturels, ce qui me semble logique. Donc ça ne me semble pas absolument évident que le cinéma en bénéficiera. Et j'ajoute juste un point. Il y a quelques années, les distributeurs américains étaient absolument favorables à la mesure. Ils constatent qu'en France, où l'audience est supérieure à celle de l'Allemagne, la sortie des films leur coûte beaucoup moins cher.
Deux mots rapides d'abord sur le bilan du cinéma français, parce que quand même 213 millions d'euros.
C'est de spectateurs.
De spectateurs, absolument. J'ai dit, ah oui, d'euros, pardon, de spectateurs, absolument. C'est du jamais vu, je crois, depuis 1966. C'est-à-dire si ça fait longtemps, très longtemps. Comment vous expliquez ça? Bon, les films américains ont un peu boosté quand même là, les entrées.
Non, alors, il y a des films américains.
Oui, qui ont boosté les entrées.
Et donc, quand les films américains sont très forts, le pourcentage mécaniquement du cinéma français baisse. Mais vous avez un nombre significatif de films français très intéressants. Donc, pas des films qui ont fait 10 millions, qui n'ont pas attiré 10 millions de spectateurs, mais qui ont attiré plus d'un million de spectateurs, qui ont largement participé à ce succès. Hein, vous avez des films de réalisateurs quasiment inconnus il y a peu de temps. J'ai parlé déjà plusieurs fois des Misérables. Vous avez La Vie scolaire. Vous avez un grand film populaire qui est toujours La famille Bélier, etc. Donc il y a le cinéma français dans sa diversité. Et ce que nous voulons maintenir, c'est cette diversité.
Ouais. Un mot sur Gaumont. Gaumont qui accumule un peu les pertes en 2019.
Nous n'avons pas
que...
encore...
C'est le 10 mars.
Nos chiffres, oui. Mais nous avons effectivement publié un communiqué pour dire que les résultats seraient mauvais. Alors, les résultats sont mauvais pour deux raisons. Nous changeons de modèle économique. Nous étions appuyés sur un circuit. Nous avons vendu notre participation dans le circuit. Nous nous développons dans la télévision. Et il y a les frais de développement en Allemagne, en Angleterre et par ailleurs... le fait que nous ne sommes pas encore tout à fait en vitesse croisière aux États-Unis.
D'accord. Donc 2019, mauvaise année. Oui. 2020 sera meilleure.
2020
portera déjà les fruits,
meilleur, pas encore. Meilleur sûrement. Et 2021 devrait être bien.
D'accord. Donc c'est là, 2021. Sur le circuit du financement, est-ce que, donc on sait que Canal a réduit sa participation de manière drastique, unilatérale, est-ce que, bon, vous redoutez, est-ce qu'il faut là aussi changer un peu les règles du financement, que des plateformes y participent, est-ce qu'il faut revoir les clés du financement du cinéma français?
Il faut... j'ai parlé tout à l'heure de dentelle, et je pense que... aujourd'hui, la loi audiovisuelle donne plutôt satisfaction aux grands diffuseurs que sont notamment TF1 et M6, qui
ils sont pas d'accord, mais enfin ça c'est oui.
Qui malheureusement s'intéressent moins au cinéma aujourd'hui qu'hier. Le cinéma ayant pour eux un défaut, c'est que quand ils diffusent un grand succès, ils ne sont pas sûrs sur la même case de le retrouver. Bon, et que les séries donc fidélisent plus le public, c'est assez évident. Nous avons réussi à construire un modèle, c'est pour ça que nous sommes le second cinéma du monde occidental, où les diffuseurs participent à notre financement. S'il est trop remis en cause, c'est un problème majeur. Que lorsqu'on parle des plateformes, est-ce que les plateformes ont envie de financer le cinéma en Europe, et en France en particulier, qui est le premier pays européen de ce côté-là?
La réponse est quoi, à votre avis?
La réponse n'est pas évidente. Yeah. Alors, Netflix a dit qu'il était prêt à le faire. Bon, on voit bien que le modèle d'Amazon est un modèle complètement différent, puisque Amazon, il cherche à vous vendre des chaussures ou des bouteilles d'eau, et par ailleurs, fait du cinéma. Donc, je crois que dire les plateformes, c'est un peu exagéré, et qu'en plus, il faut que le cadre législatif existe avant que nous puissions discuter sérieusement avec les plateformes, et on pourrait dire, évidemment... les mêmes obligations pour ceux qui diffusent le même type de programme.
Ok, merci beaucoup Nicolas Sédou d'avoir été avec nous et d'avoir répondu franchement à toutes ces questions dans cette période un peu compliquée, on va dire, pour le cinéma français. Merci beaucoup, président du conseil de surveillance de Gaumont. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve demain à 8h15. Je recevrai le patron d'Eurotunnel aujourd'hui, Getlink. Notamment, on parlera bien sûr du coronavirus. Et puis, on se retrouve dans l'orage, 12h, 13h, comme tous les jours. Bonne journée.